Gilgamesh, roi d'Uruk, est un homme fort. Mais c'est aussi un roi violent et débridé. Ainsi, il exige de connaître toutes les jeunes filles avant leur mariage. Il veut tout le temps jouer au ballon avec ses congénères. Au point que ses sujets sont très mécontents. Ses sujets s'en plaignent auprès des dieux qui décident de lui envoyer un alter ego pour le ramener à un meilleur comportement. Cet alter ego est Enkidu. C'est un homme sauvage qui vit dans la nature et qui est capable de dialoguer avec les animaux. L'épopée le décrit comme un onagre, c'est-à-dire un âne sauvage, ce qui n'est pas péjoratif dans les civilisations antiques. En sorte de le cultiver afin qu'il puisse venir à Uruk, la ville de Gilgamesh, les dieux lui envoient une courtisane. Elle lui apprend l'amour et les bonnes manières. Et du coup, il devient un humain part entière et perd sa capacité de dialogue avec les animaux sauvages. Elle le ramène à Uruk, où il rencontre Gilgamesh. Les deux héros s'affrontent pendant toute une journée et toute une nuit, et aucun des deux n'est vainqueur. À l'issue de ce combat, finalement, ils deviennent amis. Gilgamesh propose à son ami Enkidu d'entreprendre une expédition dans les forêts de cèdres du Liban, gardées par Humbaba. À pas de géant, en 6 étapes, ils franchissent les 1500 km qui séparent Uruk du Liban. Humbaba est un homme et un monstre puissant. Et le combat commence entre le monstre Humbaba et Enkidu et Gilgamesh. Et Gilgamesh fait appel à tous les dieux du ciel, et notamment le dieu Shamash, qui intervient et qui fait basculer le combat en faveur de Gilgamesh et d'Enkidu. Humbaba, se sentant perdu, demande la clémence à Gilgamesh, en lui promettant tous les bois qu'il souhaite pour embellir sa ville et son palais. Gilgamesh est prêt à l'entendre, mais Enkidu lui conseille de ne pas l'écouter et de l'achever. Plusieurs fois, Humbaba supplie, et plusieurs fois, Gilgamesh est prêt à entendre, et plusieurs fois, Enkidu conseille à Gilgamesh de l'achever. Finalement, Humbaba les maudit, et Gilgamesh l'achève et le tue. Les deux héros reviennent avec des bois du cèdre du Liban pour les palais d'Uruk, et pour embellir la ville. De retour à Uruk, Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, qui trouve Gilgamesh à son goût, lui fait des avances. Que Gilgamesh repousse. Ishtar est furieuse. Elle en appelle à son père pour la venger et lui demande d'envoyer le taureau céleste dévaster le pays d'Uruk. Le taureau céleste dévaste le pays d'Uruk, mais Gilgamesh et Enkidu réussissent à le maîtriser et à le tuer. Ishtar est furieuse et s'en réfère aux dieux. Elle demande vengeance. Pour cette vengeance, les dieux décident de faire mourir Enkidu. Et Enkidu est frappé d'une maladie et meurt, au grand désespoir de son ami Gilgamesh qui le pleure. Gilgamesh se rend compte alors qu'il n'est pas immortel lui aussi et qu'un jour il disparaîtra. Il décide donc de partir à la recherche de l'immortalité. Mais il sait que Utanapishti, héros du déluge, est devenu immortel. Il décide d'aller le voir pour lui aussi acquérir l'immortalité. Il s'en va à travers la steppe, puis arrive à un endroit où il rencontre une courtisane, Siduri, qui lui dit qu'il est impossible d'aller voir Utanapishti parce qu'il faut traverser la mer. Elle lui conseille de renoncer, mais Gilgamesh n'en a pas l'intention. Elle lui conseille de renoncer à son projet et de profiter de la vie telle qu'elle lui est offerte. Gilgamesh ne veut toujours pas l'entendre. Finalement, Siduri dit à Gilgamesh qu'il y a un passeur qui peut l'aider à traverser la mer pour aller voir Utanapishti. Gilgamesh atteint l'île sur laquelle vit Utanapishti, l'immortel. Utanapishti lui demande pourquoi il vient et Gilgamesh lui dit effectivement qu'il vient pour acquérir l'immortalité. Et Utanapishti lui dit mais que c'est impossible, que lui, l'immortalité lui a été donnée par les dieux et que à la suite du déluge, et que donc lui, il n'a pas de secret d'immortalité à lui donner. Mais toutefois, Utanapishti lui dit, écoute, pour acquérir l'immortalité, il faut que tu sois capable de ne pas dormir pendant 6 nuits et 6 jours. Ce que bien sûr Gilgamesh ne parvient pas à faire. Désespéré, Gilgamesh s'apprête à retourner à Uruk, mais la femme d'Utanapishti intervient lui et dit à son époux, écoute, Gilgamesh est venu de si loin, il a voyagé si longtemps, donne-lui le secret de l'immortalité. Alors Utanapishti lui dit, voilà, il y a une plante au fond de la mer, que si tu manges cette plante, tu deviens immortel. Mais il faut aller la chercher au fond de la mer. Gilgamesh reprend la mer, met 2 pierres à son cou et plonge au fond de la mer, récupère la plante et remonte à bord de la barque. Puis, avec cette plante, il repart en direction du Rook. Un soir, il s'endort et laisse la plante sur le côté. Dans la nuit, un serpent vient et mange la plante de l'immortalité. C'est pour ça que les serpents représentent l'immortalité, parce qu'ils muent. Et donc, c'est pour ça que dans la légende, on dit que le serpent mange la plante de l'immortalité. Au petit matin, Gilgamesh est désespéré, s'aperçoit que la plante a été mangée par le serpent, et qu'à la place du serpent, il trouve sa mue. Il décide de rentrer à Uruk, et finalement accepte le fait d'être mortel. En fait, il décide de devenir un bon roi qui s'occupe de son royaume, et il rentre sagement à Uruk où il gère son royaume. Et il se rend compte qu'effectivement, et c'est la morale de l'histoire, que son immortalité passera par sa descendance.